Bonjour, mon nom est Tom Eden et je suis le réalisateur de la série « Gaspé au temps de la Deuxième Guerre mondiale » qui est une présentation du Berceau du Canada, rendue possible avec le support d'Anciens combattants Canada et de la ville de Gaspé. Les extraits d'entrevues que vous entendrez au cours de cette série ont été enregistrés à la maison Le Boutillier, située au Berceau du Canada, à Gaspé, en septembre 2021. Le principal intervenant est Fabien Sinette, qui est né dans le secteur de la pointe O'Hara en 1932. De ce fait, il s'est retrouvé au cœur de l'action durant une des périodes les plus marquantes de l'histoire de la ville.
Je suis né ici à Gaspé, dans l'endroit qu'on appelle aujourd'hui la pointe O'Hara en 1932. Surtout aujourd'hui, je réalise ça, que j'étais quand même un témoin privilégié, parce que moi, j'aimais tous ces déploiements-là. Moi, ça m'impressionnait. Puis je voulais toujours en voir plus. Hein? Mais je réalise aujourd'hui que j'étais quand même un témoin de ces choses-là, sans m'en rendre compte, hein? Qu'aujourd'hui, je réalise là, qu'il y avait des choses importantes. Mais quand tu es jeune, tu ne vois pas l'importance de tout ça. J'étais curieux, c'est surtout curieux. Ça. C'était une belle époque. J'ai aimé cette époque-là. Où la peur, je n'ai pas connu ça, là, parce que je ne voyais pas de raison d'avoir peur. T'sais?
Monsieur Sinette commence le récit au début des années 20, période au cours de laquelle Gaspé se remet lentement de ses lourdes pertes durant la Première Guerre mondiale, conflit qui a coûté la vie à 43 jeunes des environs. Le ministre anglican, John Wayman, qui a servi outre-mer dans les tranchées de la Belgique et de la France au sein du 87e bataillon, une unité qui comptait plusieurs Gaspésiens dans ses rangs, songe à créer une unité de réserve à Gaspé.
L'armée de réserve a été établie, elle, en 1921, pour une base ou une certaine formation militaire pour être dans l'armée active. C'est là la différence entre une milice et l'armée de réserve que nous autres, on avait. Là. C'est pour ça que c'était un militaire, un capitaine, Wayman, qui l'a établi, la réserve. Là. Fait qu'il y avait Wayman, tant qu'il a, première fois qu'il a appelé une assemblée générale autour de ça, là, en Gaspé, pour former. Je ne sais pas s'il voyait peut-être, là, Wayman voyait peut-être qu'à l'horizon, il pourrait avoir une guerre, quelque chose de même. Pour aller établir une armée de réserve, il y avait certainement une vision de quelque sorte. Hein. Fait que, mais là, dans cette réunion-là, tu vois, il y avait beaucoup qui sont présentés, beaucoup de vétérans aussi, hein, de la Première Guerre, là, qui étaient intéressés à rentrer dans cette réserve-là. La plupart, c'était ça. Et puis, il a donné un vote. Est-ce qu'on fait une unité d'artillerie ou d'infanterie, ou de cavalerie, ou quoi que ce soit? Fait que le vote a été que c'était de l'artillerie, qui était peut-être plus pratique, là. Puis c'est là que le 82e régiment a été formé, là. Une couple d'années après, je pense qu'il y avait 120 membres. C'est quand même un village, ça. C'était pas une grosse ville, là. Puis là, ils ont commencé à faire de l'entraînement à l'extérieur, mais il y en a... Même en 1920, avant que ça soit officiellement établi, il y avait des gens qui étaient intéressés à prendre des cours d'officier, puis c'est là qu'ils les envoyaient en Ontario pour suivre des cours de formation pour être officier. Parce que ça prenait des dirigeants, là, pas juste des soldats. T'sais. Fait que c'est que, puis en 21, mais ça a été mis en œuvre, là, vraiment. Là.
Il faut se rappeler que les temps étaient très difficiles à Gaspé durant les années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale.
Il y a eu la période de la crise économique qui a commencé en octobre 1929. Hein. Puis ça s'est échelonné jusqu'à la guerre. Pendant 10 ans, c'était la grosse crise économique. Là. Les gens crevaient pas de faim, c'est tout. Là. Il fouillait pas dans les poubelles parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture dans les poubelles. Les gens avaient toutes les énergies pour leur penser à essayer de survivre. Hein. C'était surtout ça, mais ne parlaient pas de la guerre. Là. Seule chose qu'on entendait parler de la guerre... Moi, je l'entendais parler un peu chez nous, surtout dans l'atelier de mon père. Après l'école, j'allais toujours dans son atelier, moi, parce qu'il y avait toujours des gens qui se réunissaient et qui comptaient des histoires, j'aimais ça. J'avais mes 2 ans qui avaient fait de la guerre, Première Guerre mondiale. Les autres racontaient des histoires sur la guerre. Mais jamais qu'il y avait des questions qui pouvaient avoir la guerre ici. Là. On n'a jamais entendu parler de ça. Là.
Comme M. Sinette expliquait, mis à part les quelques discussions qui avaient lieu dans l'atelier de cordonnerie de son père Michael, avec ses oncles Jérémy et Eugène, deux vétérans de la Grande Guerre, les gens portaient que très peu attention à la possibilité d'un autre conflit mondial. C'est dans ce contexte qu'un groupe allemand s'intéressait à acquérir l'île d'Anticosti.
Donc, c'était quand même gardé un peu secret peut-être, aussi dans l'ignorance aussi. Il faut dire qu'en 37-38, là, on ne pensait pas avoir de la guerre ici non plus. Là. La guerre pour nous autres, hein, tout le peuple, là, c'est en Europe comme c'était la Première Guerre. Puis, il n'y avait pas d'intérêt que les Allemands pouvaient venir ici nous déclarer la guerre ou faire quoi que ce soit. Alors, les gens n'étaient pas conscients de ça. Surtout en 37-38. Mais 37-38, là, c'était l'ascension pas mal du parti nazi. Là. Vous savez, ils ont commencé en 33, mais là, il est en pleine vigueur là, en 37. Là. Et puis, la raison étant peut-être réelle, c'est de chercher un endroit, un genre de pied à terre de quelque sorte pour faire une station de quelque sorte. Fait que, ils ont contacté la Consolidated Paper, qui était propriétaire de l'île d'Anticosti. Puis les autres, la Consolidated, les autres, ça a tout l'air qu'ils ont offert un gros prix. Sous le règne de un peu les directives de Hermann Göring, qui était quand même un des exécutifs du parti nazi avec Hitler, c'était un peu son bras droit. Hein. Lui a communiqué avec le premier ministre Mackenzie King s'il pouvait donner un coup de main à persuader le Consolidated Paper de vendre cette île-là, ça aurait été bon pour l'économie canadienne parce qu'il y avait un gros projet côté forestier, puis en tout cas, il y avait tout un programme d'établi. Hein. Fait qu'ils sont venus, 13, ils étaient 13 les autres. Mais il y en avait un dans ce groupe-là qui était un industriel il construisait des ponts, puis tout ce qu'il y avait de métal. Puis un peu, quelques années après, il avait établi une entreprise avec un autre, construit des sous-marins. Alors, ça, c'était 2-3 ans après, mais quand même, là. C'était un peu le gros Manitou de ce groupe-là, lui, là, nommé Gads, qui s'appelait. Duplessis est intervenu. Il est dans ce que ci appartenait pas. Le fédéral n'avait aucun lien. Même si c'était une compagnie qui était propriétaire, mais les droits tels quels, forestiers, appartenaient aux provinces. Mackenzie King ne pouvait pas négocier. Finalement, il a rencontré ces gens-là. Et puis, tout de suite, il a eu la puce à l'oreille. Là, que ça pourrait être d'autres choses. C'est difficile. Il était quand même... Les gens lui ont attribué beaucoup de choses, mais peut-être qu'il était assez vigilant pour percevoir que ces gens-là ne voulaient pas construire une industrie forestière. Fait qu'il a dit non. Il a lui a fermé la porte complètement. Fait que là, Mackenzie King est un peu... C'est pas parce que Mackenzie King est un fervent du parti nazi, c'est pas ça du tout, là. Mais peut-être naïf un peu, là, ce qui aurait pu arriver, là. Lui, il croyait pas qu'il y aurait eu de la guerre ici, de toute façon, par les budgets qui sortaient côté militaire, qui étaient très pauvres, là. Fait que finalement, ben là, c'est un peu Duplessis qui a tranché la question. S'il avait construit une base, là, de quelque sorte, soit du ravitaillement ou d'armement, c'est que le passage là est pas large là, entre l'Anticosti et la terre hein, ferme. C'est que ça aurait été difficile pour un navire de passer là. S'il avait installé des gros canons comme ils l'ont installé à la péninsule, là, ça aurait pu être sérieux. Puis il aurait pu faire ça secrètement. Puis la Consolidated, ben, elle a continué comme compagnie. Ils ont fermé quand même, je m'en rappelle, moi, il y avait encore le bureau, là. 48-49, il y avait encore le bureau.
En septembre 1939, à peine une génération après la déclaration de l'armistice du 11 novembre 1918, le Canada se trouve à nouveau en guerre. Et comme durant la période de la Première Guerre mondiale, les jeunes de Gaspé s'enrôlent en grand nombre.
C'était la déclaration de la guerre, c'est sûr. Pour toutes, hein, en réalité, nous autres, on embarquait dedans parce qu'on était quand même partie du Commonwealth aussi. On n'avait pas le choix d'embarquer dans la guerre aussi. Et l'enrôlement était bon. Il y a eu beaucoup qui sont enrôlés. Il faut dire, sortant de la crise, là. Il y avait quand même 3 repas par jour, là, ben, là. Un lit pour dormir. C'est vrai qu'il n'y avait pas toujours de la vie civile à cette époque-là. Il ne faut pas oublier ça, là. La vie était dure aussi. Puis il y en a d'autres aussi, ben, soit des connaissances ou de la parenté, qui ont fait la Première Guerre. Et puis ils racontaient beaucoup les aventures, puis ils disaient, ben, on veut connaître cette aventure-là, on va aller en Europe, puis probablement, malgré que ce n'est pas tout établi encore au début, car en septembre 1939. Mais il y a quand même plusieurs de Gaspé qui s'est enrôlé quand même. Là, il y en avait 40. Dans le lendemain de suite, ouais, ils ont dit, nous autres, c'est tous des jeunes. Ils ont dit, nous autres, on s'enrôle tout de suite. Ils ont traversé, ils ont en décembre. À Noël, ils étaient rendus en Angleterre déjà.
Un des jeunes qui s'était enrôlé au début de la guerre était Dave Moran, le cousin de M. Sinnette. Il était artilleur dans une unité anti-tank et a combattu en Sicile et en Italie.
Sa mère, c'était la sœur de mon père. Lui, Dave, il avait 17 ans ou 18 ans, je pense. Là. Je pense qu'il a eu 18 ans là, en traversant. Et puis, lui a décidé de s'enrôler. Il a dit que son père avait fait la Première Guerre lui, dans les régiments forestiers. Puis, en Angleterre, il n'a pas été sur le front, par exemple, de l'Ouest. Mais il a quand même fait de l'armée. Puis, en tout cas, peut-être ses oncles aussi. Les deux familles, hein, il y avait peut-être 15-20 pieds entre là, les maisons. Là. Fait qu'il était toujours rendu chez nous, soit pour un repas ou quoi, mais il était quand même dans les âges de mes deux frères. Là. Moi, dans la guerre de Floride, moi j'avais 7 ans, en 39. Et puis, mais je me rappelle très bien de Dave, là, comme c'était hier, parce qu'il était toujours rendu chez nous. Puis c'était un gars qui avait beaucoup d'humour. Hein. Il était souvent dans l'atelier de mon père aussi. T'sais. Il allait là, puis chassait, puis il écoutait les histoires t'sais, aussi. Fait, mais les deux oncles qui étaient là racontaient des histoires de guerre. Peut-être que ça l'avait influencé, je ne sais pas. Mon père se levait de bonne heure pour animer son poêle, lui. Puis, je ne fais pas la nuit, hein, manager le bois aussi. Là. Fait, il était prêt à animer le poêle là, le matin, puis ça cogne à la porte. C'était Dave. Il s'en allait, il prenait le train. Et puis, il y avait l'uniforme de la guerre de 14, parce que l'armée canadienne n'avait pas encore fabriqué de nouveaux uniformes. Alors, c'était l'uniforme de la guerre de 14 avec la casquette, là. Et puis, ça fait que nous autres, on était couchés. Moi, j'étais couché, ma mère aussi. Ça fait que là, il dit, ma tante, es-tu là? Puis il dit, Fabien, j'aimerais le voir avant de partir, je voudrais y laisser quelque chose. Ça fait que c'est là qu'il m'a laissé sa photo avec cet uniforme-là. Il dit, tu garderas ça pour souvenir. Ça fait que je l'ai jamais revu après, là. Là, il est parti, puis... Ça fait, au printemps 45. Lui avait tout fait la campagne d'Italie, toute la campagne de Sicile.
À l'été 1940, des recruteurs des Royal Rifles du Canada, une unité d'infanterie basée à Québec, commencent une campagne de recrutement à Gaspé. Parmi les jeunes à s'enrôler avec eux étaient 3 amis de Gaspé. Philippe Joseph, Laurent Ouellette, et le frère de M. Sinnette, Mathias. La carrière des trois amis avec les Royal Rifles fut cependant de très courte durée, car le capitaine George Sams, un artilleur, s'est empressé de les soutirer aux recruteurs de Québec.
Je parle toujours des autres comme des gens complètement d'une autre famille, parce que il y en a un qui avait... Mathias avait 12 ans de différence, puis Léonard avait 10 ans avec moi. Fait que c'était un peu une deuxième famille pour mes parents, moi, tu sais. Fait que Mathias, lui, s'est enrôlé... Ils avaient rencontré 3 des autres sur la plage de Battery Park, là. On appelait ça la plage de Battery Park, aujourd'hui, jusqu'à la promenade, là. Les gens se ramassaient beaucoup, là, ils prenaient une bière, puis... Fait qu'il était 3, il y avait Laurent Ouellette, puis il y en a mais Philippe Joseph. 3 gars de Gaspé. Ça fait que là, il n'y avait pas d'ouvrage, puis là, ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on ne s'enrôlera pas dans leurs mains? Fait que, tu sais, peut-être qu'on sera bien là, là. Fait qu'il y avait un officier recruteur qui passait pour les Royal Rifles. Fait que je pense qu'il avait son bureau dans le bureau de la réserve, là, l'Armory, là. Fait qu'ils sont allés, ils sont enrôlés les trois. Fait qu'il est arrivé chez nous, là, le midi, ça, puis là, il annonce à mes parents, il dit, je suis enrôlé d'armée un matin. Ah, ma mère dit, pas encore un autre, t'sais. Fait que là, il dit, là, on a décidé les trois, puis il dit, c'est trois chums, fait que on s'est enrôlé dans l'armée. Puis là, mon père, il demande, c'est-tu les mêmes régiments que la réserve? Mon père connaissait pas trop les affaires militaires, t'sais. Non, il dit, ça s'appelle les Royal Rifles. Dans la même après-midi, mon père était dans son atelier, George Sam arrive là. George Sam, à l'époque, je pense qu'il était, il n'était pas encore major, il était capitaine. Parce qu'il était dans le 82e. Et puis, il dit ça. Il dit, s'enrôler dans quoi? Ben là, il essaie d'expliquer, en tout cas. Ah, il dit, j'espère que ce n'est pas le Royal Rifle. Et mon père dit, oui, justement. Il ne s'est pas enrôlé dans l'artillerie. Parce que Gaspé, c'était l'artillerie. Non, il dit non. Mais ça, ce régiment-là, il dit, là, on ne sait pas ce qu'on va avec ça. C'est pas défini, c'est quoi ils vont faire, ce régiment-là. Est-ce qu'ils vont faire de l'occupation? Ou qu'ils... On ne sait pas encore, il dit. Moi, à sa place, il dit, je changerai de régiment. Il dit, s'il veut, il dit, là, parle-y, hein. Il dit, moi, je peux arranger ça, je vais être à mon bureau. Parce qu'il était quand même dirigeant de la réserve. À cette époque-là, il était dans l'armée active, là. Mais par contre, il est encore responsable à la réserve. Il dit, je vais être là dans mon bureau après-midi. Puis qu'il vient me voir, il dit, moi, j'ai des contacts, je peux le faire changer de régiment facilement. Fait que, ils sont allés le voir. Mon père, il a fait un message. Puis c'est là qu'il est enrôlé. Il a dit, vous allez vous enrôler dans l'artillerie, là.
Ce premier épisode de Gaspé au temps de la Deuxième Guerre mondiale vous est présenté par le Berceau du Canada, avec la participation d'anciens combattants Canada et de la ville de Gaspé.